Chapitre 4. En achevant ce récit qu'elle dévora, Mademoiselle de Watteville avait les joues en feu, la fièvre était dans ses veines. Elle pleurait, mais de rage. Cette nouvelle, inspirée par la littérature alors à la mode, était la première lecture de ce genre qu'il fut permis à Philomène de faire. L'amour y était peint, sinon par une main de maître, du moins par un homme qui semblait raconter ses propres impressions. Or, la vérité, fût-elle inhabile, devait toucher une âme encore vierge. Là se trouvait le secret des agitations terribles, de la fièvre et des larmes de Philomène. Elle était jalouse de Francesca Colonna. Elle ne voulait pas de la sincérité de cette poésie. Albert avait pris plaisir à raconter le début de sa passion, en cachant sans doute les noms, peut-être aussi les lieux. Philomène était saisie d'une infernale curiosité. Quelle femme n'eût pas comme elle voulu saisir le vrai nom de sa rivale, car elle aimait. En lisant ces pages contagieuses pour elle, elle s'était dit ce mot solennel « j'aime ». Elle aimait Albert. Et se sentait au cœur une mordante envie de le disputer, de l'arracher à cette rivale inconnue. Elle pensa qu'elle ne savait pas la musique et qu'elle n'était pas belle. « Il ne m'aimera jamais », se dit-elle. Cette parole redoubla son désir de savoir si elle ne se trompait pas, si réellement Albert aimait une princesse italienne et s'il était aimé d'elle. Durant cette fatale nuit, l'esprit de décision rapide qui distinguait le fameux Watteville se déploya tout entier chez son héritière. Elle enfanta de ces plans bizarres, autour desquels flottent d'ailleurs presque toutes les imaginations de jeunes filles, quand au milieu de la solitude où quelques mères imprudentes les retiennent, elles sont excitées par un événement capital que le système de compression auquel elles sont soumises n'a pu ni prévoir ni empêcher. Elle pensait à descendre avec une échelle par le kiosque dans le jardin de la maison où demeurait Albert, à profiter du sommeil de l'avocat pour voir par sa fenêtre l'intérieur de son cabinet. Elle pensait à lui écrire, elle pensait à briser les liens de la société byzantine en introduisant Albert dans le salon de l'hôtel de Rupt. Cette entreprise qui eut paru le chef-d'œuvre de l'impossible à l'abbé de Grancey lui-même, fut l'affaire d'une pensée. « Ah !» se dit-elle, « mon père a des contestations à sa terre des Rouxey, j'irai. S'il n'y a pas de procès, j'en ferai naître, et il viendra dans notre salon !» s'écria-t-elle en s'élançant de son lit à sa fenêtre pour aller voir la lumière prestigieuse qui éclairait les nuits d'Albert. Une heure du matin sonnait, il dormait encore. « Je vais le voir à son lever, il viendra peut-être à sa fenêtre. » En ce moment, Mademoiselle de Watteville fut témoin d'un événement qui devait remettre entre ses mains le moyen d'arriver à connaître les secrets d'Albert. À la lueur de la lune, elle aperçut deux bras tendus hors du kiosque et qui aidèrent Jérôme, le domestique d'Albert, à franchir la crête du mur et à entrer sous le kiosque. Dans la complice de Jérôme, Philomène reconnut aussitôt Mariette, la femme de chambre. « Mariette et Jérôme ?» se dit-elle. « Mariette, une fille si laide ?»« Bon, mais certes, ils doivent avoir honte l'un et l'autre. » Si Mariette était horriblement laide et âgée de 36 ans, elle avait eu par héritage plusieurs quartiers de terre. Depuis 17 ans au service de Madame de Watteville, qu'il estimait fort à cause de sa dévotion, de sa probité, de son ancienneté dans la maison, elle avait sans doute économisé, placé ses gages et ses profits. Or, à raison d'environ 10 louis par année, elle devait posséder, en comptant les intérêts des intérêts et des héritages, environ 15 000 francs. Et aux yeux de Jérôme, 15 000 francs changeaient les lois de l'optique. Il trouvait à Mariette une jolie taille, Il ne voyait plus les trous et les coutures qu'une affreuse petite vérole avait laissées sur le visage plat et sec. Pour lui, la bouche contournée était droite. Et depuis qu'en le prenant à son service, l'avocat Savaron l'avait rapproché de l'hôtel de Rupt, il fit le siège en règle de la dévote femme de chambre, aussi raide, aussi pointe que sa maîtresse, et qui, semblable à toutes les vieilles filles laides, se montrait plus exigeante que les plus belles personnes. Si maintenant la scène nocturne du kiosque est expliquée pour les personnes clairvoyantes, elle était très peu pour Philomène, qui néanmoins y gagna la plus dangereuse de toutes les instructions, celle que donne le mauvais exemple. Une mère élève sévèrement sa fille, la couvre de ses ailes, pendant 17 ans, et dans une heure, une servante détruit ce long et pénible ouvrage, quelquefois par un mot, souvent par un seul geste. Philomène se recoucha, non sans penser à tout le parti qu'elle pouvait tirer de cette découverte. Le lendemain matin, en allant à la messe en compagnie de Mariette, la baronne étant indisposée, Philomène prit le bras de sa femme de chambre, ce qui surprit étrangement la comtoise. « Mariette, lui dit-elle, Jérôme a-t-il la confiance de son maître ?»« Oh, je ne sais pas, mademoiselle. »« Allez, ne faites pas l'innocente avec moi, » répondit sèchement Philomène. « Vous vous êtes laissé embrasser par lui cette nuit sous le kiosque. Je ne m'étonne plus si vous approuviez tant ma mère à propos des embellissements qu'elle y projetait. » Philomène sentit le tremblement qui saisit Mariette par celui de son bras. « Je ne vous veux pas de mal, » dit Philomène en continuant. « Rassurez-vous, je ne dirai pas un mot à ma mère, et vous pourrez voir Jérôme tant que vous voudrez. » « Mais, mademoiselle, répondit Mariette, c'est en tout bien, tout honneur. Jérôme n'a pas d'autre intention que celle de m'épouser. »« Mais alors pourquoi vous donnez-vous des rendez-vous la nuit ?» Mariette, atterrée, ne sut rien répondre. « Écoutez, Mariette, j'aime moi aussi, moi. J'aime en secret, toute seule. Je suis après tout unique enfant de mon père et de ma mère. » Aussi vous avez plus à espérer de moi que de qui que ce soit au monde. Non, mais certainement, mademoiselle, vous pouvez compter sur nous à la vie et à la mort, s'écria Mariette, heureuse de ce dénouement imprévu. Alors d'abord, silence pour silence, dit Philomène, je ne veux pas épouser monsieur de Soulard, mais je veux et absolument une certaine chose. Ma protection ne vous appartient qu'à ce prix. « Quoi ?» demanda Mariette. « Je veux voir les lettres que M. Savaron fera mettre à la poste par Jérôme. »« Mais pourquoi faire ?» dit Mariette effrayée. « Rien que pour les lire. Et vous les jetterez vous-même à la poste après. Ça ne fera qu'un peu de retard, voilà tout. » En ce moment, Philomène et Mariette entrèrent à l'église et chacune d'elles fit ses réflexions au lieu de lire l'ordinaire de la messe. Bon Dieu, combien y a-t-il donc de péchés dans tout cela ? Se dit Mariette. Philomène, dont l'âme, la tête et le cœur étaient bouleversés par la lecture de la nouvelle, y vit enfin une sorte d'histoire écrite pour sa rivale. À force de réfléchir comme les enfants à la même chose, elle finit par penser que la revue de l'Est devait être envoyée à la bien-aimée d'Albert. « Oh !» se disait-elle à genoux, la tête plongée dans ses mains et dans l'attitude d'une personne abîmée dans la prière. « Oh ! Mais comment amener mon père à consulter la liste des gens à qui l'on envoie cette revue ?» Après le déjeuner, elle fit un tour de jardin avec son père en le cajolant et l'amena sous le kiosque. « Crois-tu, mon cher petit père, que notre revue aille à l'étranger ?» « Bon, ne fait que commencer. »« Et moi, je parie qu'elle y va. »« Oh, c'est guère possible. »« Va le savoir et prends les noms des abonnés à l'étranger. » 2 heures après, M. de Watteville dit à sa fille, « Eh bien, j'ai raison, il n'y a pas encore un abonné dans les pays étrangers. L'on espère en avoir à Neuchâtel, à Berne, à Genève. On en envoie bien un exemplaire en Italie, mais gratuitement à une dame milanaise, à sa campagne sur le lac Majeur, à Belgirate. Son nom? Dit vivement Philomène. La duchesse d'Argaiolo. La connaissez-vous, mon père? Bon, j'en ai naturellement entendu parler. Elle est née princesse Soderini, c'est une Florentine, oh, une très grande dame, et tout aussi riche que son mari qui possède une des plus belles fortunes de la Lombardie. Leur villa sur le lac Majeur est une des curiosités de l'Italie. 2 jours après, Mariette remit la lettre suivante à Philomène. Albert Savaron à Léopold Hannequin. Eh bien, oui, mon cher ami, je suis à Besançon pendant que tu me croyais en voyage. Je n'ai rien voulu te dire qu'au moment où le succès commencerait, et voici son aurore. Oui, cher Léopold, après tant d'entreprises avortées où j'ai dépensé le plus sûr de mon sang, où j'ai jeté tant d'efforts et de tant de courage, j'ai voulu faire comme toi. Prendre une voie battue, le grand chemin, le plus long, le plus sûr. Quel bond je te vois faire sur ton fauteuil de notaire! Mais ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de changé à ma vie intérieure, dans le secret de laquelle il n'y a que toi au monde, et encore sous les réserves qu'elle a exigées. Je ne te le disais pas, mon ami, mais je me lassais horriblement à Paris. Le dénouement de la première entreprise où j'ai mis toutes mes espérances et qui s'est trouvé sans résultat par la profonde scélératesse de mes 2 associés, d'accord pour me tromper, pour me dépouiller, moi, à l'activité de qui tout était dû, m'a fait renoncer à chercher la fortune pécuniaire après avoir ainsi perdu 3 ans de ma vie dans une année à plaider. Peut-être m'en serais-je plus mal tiré si je n'avais pas été contraint à 20 ans d'étudier le droit. J'ai voulu devenir un homme politique uniquement pour être un jour compris dans une ordonnance sur la pairie sous le titre de comte Albert Savon de Savarus et faire revivre en France un beau nom qui s'éteint en Belgique, encore que je ne sois ni légitime ni légitimé. Ah, j'en étais sûr, il est noble! S'écria Philomène en laissant tomber la lettre. Tu sais quelles études consciencieuses j'ai faites, quel journaliste obscur mais dévoué, mais utile, et quel admirable secrétaire je fus pour l'homme d'État, qui d'ailleurs me fut fidèle en 1829, et replongé dans le néant par la Révolution de juillet, alors que mon nom commençait à briller, au moment où, maître des requêtes, j'allais enfin entrer comme un rouage nécessaire dans la machine politique. J'ai commis la faute de rester fidèle aux vaincus, de lutter pour eux, sans eux. Ah, pourquoi n'avais-je que 33 ans, et comment ne t'ai-je pas prié de me rendre éligible? Je t'ai caché tous mes dévouements et mes périls, que veux-tu? J'avais la foi. Nous n'aurions pas été d'accord, il y a 10 mois, pendant que tu me voyais si gai, si content, écrivant mes articles politiques, mais j'étais au désespoir. Je me voyais à 37 ans avec 2 000 francs pour toute fortune, sans la moindre célébrité, venant d'échouer dans une noble entreprise, celle d'un journal quotidien qui ne répondait qu'à un besoin de l'avenir, au lieu de s'adresser aux passions du moment. Je ne savais plus quel parti prendre. Et je me sentais. J'allais commettre et blesser dans les endroits solitaires de ce Paris. Qui m'avait échappé, pensant à mes ambitions trompées, mais sans les abandonner. Oh, quelle lettre empreinte de rage ne lui ai-je pas écrite alors à elle, cette seconde conscience, cet autre moi? Par moments, je me disais, mais pourquoi m'être tracé un si vaste programme pour mon existence? Pourquoi tout vouloir? Pourquoi ne pas attendre le bonheur en me vouant à quelque occupation quasi mécanique? Alors j'ai jeté les yeux sur une modeste place où je puisse vivre. J'allais avoir la direction d'un journal sous un gérant qui ne savait pas grand-chose, un homme d'argent ambitieux, quand la terreur m'a pris. Voudra-t-elle pour mari d'un amant qui sera descendu si bas, me suis-je dit. Cette réflexion m'a rendu mes 22 ans. Oh, mon cher Léopold, combien l'âme s'use dans ses perplexités. Que doivent donc souffrir les aigles en cage, les lions emprisonnés? Ils souffrent tout ce que souffrait Napoléon, non pas à Sainte-Hélène, mais sur le quai des Tuileries, au 10 août, quand il voyait Louis XVI se défendant si mal, lui qui pouvait dompter la sédition, comme il le fit plus tard, sur les mêmes lieux, en Vendémiaire. Eh bien, ma vie a été cette souffrance d'un jour, étendue sur 4 ans. Combien de discours à la chambre n'ai-je pas prononcés dans les allées désertes du bois de Boulogne? Ces improvisations inutiles ont du moins aiguisé ma langue et accoutumé mon esprit à formuler ses pensées en paroles. Durant ces tourments secrets, toi, tu te mariais, tu achevais de payer ta charge, et tu devenais adjoint au maire de ton arrondissement, après avoir gagné la croix en la faisant blesser à Saint-Méry. Écoute, quand j'étais tout petit et que je tourmentais les hannetons, il y avait chez ces pauvres insectes un mouvement qui me donnait presque la fièvre. C'est quand je les voyais, faisant ces efforts réitérés pour prendre leur vol, sans néanmoins s'envoler, quoiqu'ils eussent réussi à soulever leurs ailes. Nous disions d'eux, ils comptent. Était-ce une sympathie? Était-ce une vision de mon avenir? Oh, déployer ses ailes et ne pouvoir voler. Voilà ce qui m'est arrivé depuis cette belle entreprise de laquelle on m'a dégoûté, mais qui maintenant a enrichi 4 familles. Enfin, il y a 7 mois, je résolus de me faire un nom au barreau de Paris, en voyant quel vide y laissaient les promotions de tant d'avocats à des places éminentes. Mais en me rappelant les rivalités que j'avais observées au sein de la presse, et combien il est difficile de parvenir à quoi que ce soit à Paris, cette arène où tant de champions se donnent rendez-vous, bien j'ai pris une résolution cruelle pour moi, d'un effet certain, et peut-être plus rapide que tout autre. Tu m'avais bien expliqué que dans nos causeries, la constitution sociale de Besançon, l'impossibilité pour un étranger d'y parvenir, d'y faire la moindre sensation de s'y marier, de pénétrer dans la société, d'y réussir en quoi que ce soit. Eh bien, ce fut là que je voulus aller planter mon drapeau, pensant avec raison y éviter la concurrence et m'y trouver seul à briguer la députation. Les comtois ne veulent pas voir l'étranger. L'étranger ne les verra pas. Il se refuse à l'admettre dans leur salon. Il n'y ira jamais. Il ne se montrera nulle part, pas même dans les rues. Mais il est une classe qui fait les députés, la classe commerçante. Je vais spécialement étudier les questions commerciales que je connais déjà. Je gagnerai des procès, j'accorderai les différends, et je deviendrai le plus fort avocat de Besançon. Plus tard, j'y fonderai une revue où je défendrai les intérêts du pays, où je ferai naître, vivre ou renaître. Et quand j'aurai conquis un à un assez de suffrages, mon nom sortira de l'urne. On dédaignera pendant longtemps l'avocat inconnu, mais il y aura une circonstance qui le mettra en lumière, une plaidoirie gratuite, une affaire de laquelle les autres avocats ne voudront pas charger. Et si je parle une fois, je suis sûr du succès. Eh bien, mon cher Léopold, je vais t'emballer ma bibliothèque dans 11 caisses. J'ai acheté les livres de droit qui pouvaient m'être utiles et j'ai mis tout, ainsi que mon mobilier, au roulage pour Besançon. J'ai pris mes diplômes, j'ai réuni 1000 écus et suis venu te dire adieu. La malle poste m'a jeté dans Besançon où j'ai, dans 3 jours de temps, choisi un petit appartement qui a vue sur des jardins. J'y ai somptueusement arrangé le cabinet mystérieux où je passe mes nuits et mes jours, et où brille le portrait de mon idole, de celle à laquelle ma vie est vouée, qui l'a remplie, qui est le principe de mes efforts, le secret de mon courage, la cause de mon talent. Puis, quand les meubles et les livres sont arrivés, j'ai pris un domestique intelligent et suis resté pendant 5 mois comme une marmotte en hiver. On m'avait d'ailleurs inscrit au tableau des avocats. Enfin, on m'a nommé d'office pour défendre un malheureux aux assises, sans doute pour m'entendre parler au moins une fois. Un des plus influents négociants de Besançon était du jury. Il avait une affaire épineuse. J'ai tout fait dans cette cause pour cet homme et j'ai eu le succès le plus complet du monde. Mon client était innocent, j'ai fait dramatiquement arrêter les vrais coupables qui étaient témoins. Enfin, la cour a partagé l'admiration de son public. J'ai su sauver l'amour-propre du juge d'instruction en montrant la presque impossibilité de découvrir une trame si bien ourdie. Et j'ai eu la clientèle de mon gros négociant et je lui ai gagné son procès. Le chapitre de la cathédrale m'a choisi pour avocat dans un immense procès avec la ville qui dure depuis 4 ans. J'ai gagné. Et en 3 affaires, je suis devenu le plus grand avocat de la Franche-Comté. Mais j'ensevelis ma vie dans le plus profond mystère et cache ainsi mes prétentions. J'ai contracté des habitudes qui me dispensent d'accepter toute invitation. On ne peut me consulter que de 6 heures à 8 heures du matin. Je me couche après mon dîner et je travaille pendant la nuit. Le vicaire général, homme d'esprit et très influent, qui m'a chargé de l'affaire du chapitre, déjà perdue en première instance, m'a naturellement parlé de reconnaissance. « Monsieur, lui ai-je dit, je gagnerai votre affaire, mais je ne veux pas d'honoraires. Je veux plus. » Oh, tu penses, oh, le corps de l'abbé. Sachez que je perds énormément à me poser comme l'adversaire de la ville. Je suis venu ici pour en sortir député. Je ne veux m'occuper que d'affaires commerciales parce que les commerçants font les députés. Et ils se défieront de moi si je plaide pour les prêtres, car vous êtes les prêtres pour eux. Si je me charge de votre affaire, c'est que j'étais en 1828 secrétaire particulier à tel ministère. Oh, nouveau mouvement d'étonnement chez mon abbé, maître des requêtes sous le nom d'Albert de Savarus. Autre mouvement. Alors je suis resté fidèle au principe monarchique. Mais comme vous n'avez pas la majorité dans Besançon, il faut que j'acquière des voix dans la bourgeoisie. Donc les honoraires que je vous demande, c'est les voix que vous pourrez faire porter sur moi dans un moment opportun, secrètement. Gardons-nous le secret l'un à l'autre, et je plaiderai gratis toutes les affaires de tous les prêtres du diocèse. Pas un mot de mes antécédents, et soyons-nous fidèles. Et quand il est venu me remercier, il m'a remis un billet de 500 francs et m'a dit à l'oreille, « Les voix tiennent toujours. » Et en 5 conférences que nous avons eues, je me suis fait, je crois, un ami de ce vicaire général. Maintenant accablé d'affaires, je ne me charge que de celles qui regardent les négociants en disant que les questions de commerce sont ma spécialité. Cette tactique m'attache les gens de commerce et me permet de rechercher les personnes influentes. Ainsi tout va bien. D'ici à quelques mois, j'aurai trouvé dans Besançon une maison achetée qui puisse me donner de sens. Je compte sur toi pour me prêter les capitaux nécessaires à cette acquisition. Si je mourais, si j'échouais, il n'y aurait pas assez de pertes pour que ce soit une considération entre nous. Les intérêts te seront servis par les loyers, et j'aurai d'ailleurs soin d'attendre une bonne occasion afin que tu ne perdes rien à cette hypothèque nécessaire. Ah, mon cher Léopold, jamais joueur ayant dans sa poche les restes de sa fortune et la jouant au cercle des étrangers, dans une dernière nuit d'où il doit sortir riche ou ruiné, n'a eu dans les oreilles les tâtements perpétuels, dans les mains la petite sueur nerveuse, dans la tête l'agitation fébrile et dans le corps les tremblements intérieurs, que j'éprouve tous les jours en jouant ma dernière partie au jeu de l'ambition. Hélas, cher et seul ami, voici bientôt 10 ans que je lutte. Ce combat avec les hommes et les choses, où j'ai sans cesse versé ma force et mon énergie, où j'ai tant usé les ressorts du désir, m'a miné, pour ainsi dire, intérieurement. Avec les apparences de la force, de la santé, je me sens ruiné. Chaque jour emporte un lambeau de ma vie intime. À chaque nouvel effort, je sens que je ne pourrai plus le recommencer. Je n'ai plus de force et de puissance que pour le bonheur, et s'il n'arrivait pas à poser sa couronne de roses sur ma tête, le moi que je suis n'existerait plus, je deviendrais une chose détruite, je ne désirerais plus rien dans le monde, je ne voudrais plus rien être. Tu le sais, le pouvoir et la gloire, cette immense fortune morale que je cherche n'est que secondaire. C'est pour moi le moyen de la félicité et le piédestal de mon idole. Atteindre au but en expirant comme le coureur antique, voir la fortune et la mort arrivant ensemble sur le seuil de sa porte, obtenir celle qu'on aime au moment où l'amour s'éteint, n'avoir plus la faculté de jouir quand on a gagné le droit de vivre heureux. Oh, de combien d'hommes ceci fut la destinée! Il y a certes un moment où Tantale s'arrête, se croise les bras et défie l'enfer en renonçant à son métier d'éternel attrapé. J'en serais là si quelque chose faisait manquer mon plan, si après m'être courbé dans la poussière de la province, avoir rampé comme un tigre affamé autour de ces négociants, de ces électeurs pour avoir leur vote, si après avoir plaidaillé d'arides affaires, avoir donné mon temps, un temps que je pourrais passer sur le lac majeur, à voir les eaux qu'elle voit, à me coucher sous ses regards, à l'entendre. Je ne me lançais pas à la tribune pour y conquérir l'auréole que doit avoir un nom pour succéder à celui d'Argaiolo. Bien plus, Léopold, je sens par certains jours des langueurs vaporeuses. Il s'élève du fond de mon âme des dégoûts mortels, surtout qu'en temps de longues rêveries, je me suis plongé par avance au milieu des joies de l'amour heureux. Le désir n'aurait-il en nous qu'une certaine dose de force et ne doit-il périr sous une trop grande effusion de sa substance? Après tout, en ce moment, ma vie est belle, éclairée par la foi, par le travail et par l'amour. Allez, adieu, mon ami. J'embrasse tes enfants et tu rappelleras au souvenir de ton excellente femme, votre Albert. Philomène lut deux fois cette lettre dont le sens général se grava dans son cœur. Elle pénétra soudain dans la vie antérieure d'Albert, car sa vive intelligence lui en expliqua les détails et lui en fit parcourir l'étendue. En rapprochant cette confidence de la nouvelle publiée dans la revue, elle comprit alors Albert tout entier. Naturellement, elle s'exagéra les proportions déjà fortes de cette belle âme, de cette volonté puissante. Et son amour pour Albert devint alors une passion, dont la violence s'accrut de toute la force de sa jeunesse, des ennuis de sa solitude et de l'énergie secrète de son caractère. Aimer est déjà, chez une jeune personne, un effet de la loi naturelle, mais quand son besoin d'affection se porte sur un homme extraordinaire, il s'y mêle l'enthousiasme qui déborde dans les jeunes cœurs. Aussi, mademoiselle de Watteville arriva-t-elle en quelques jours à une phase quasi morbide et très dangereuse de l'exaltation amoureuse. La baronne était très contente de sa fille, qui, sous l'empire de ses profondes préoccupations, ne lui résistait plus, paraissait appliquée à ses divers ouvrages de femme, et réalisait son beau idéal de la fille soumise. L'avocat plaidait alors deux ou trois fois par semaine. Quoique accablé d'affaires, il suffisait au palais, au contentieux, du commerce, à la revue, et restait dans un profond mystère, en comprenant que plus son influence serait sourde et cachée, plus réelle elle serait. Mais il ne négligeait aucun moyen de succès, en étudiant la liste des électeurs byzantins et recherchant leurs intérêts, leurs caractères, leurs diverses amitiés, leurs antipathies. Un cardinal voulant être pape s'est-il jamais donné tant de soins? Un soir, Mariette, en venant habiller Philomène pour une soirée, lui apporta, non sans gémir sur cet abus de confiance, une lettre dont la suscription fit frémir et pâlir et rougir mademoiselle de Watteville. À madame la duchesse d'Argaiolo, née princesse Soderini, à Belgirate, Lac Majeur, Italie. À ses yeux, cette adresse brilla comme du briller Manet et Selfarès aux yeux de Balthazar. Après avoir caché la lettre, elle descendit pour aller avec sa mère chez Madame de Chavoncourt. Pendant cette soirée, Philomène fut assaillie de remords et de scrupules. Elle avait éprouvé déjà de la honte d'avoir violé le secret de la lettre d'Albert à Léopold. Elle s'était demandé plusieurs fois si, sachant ce crime infâme en ce qu'il est nécessairement impuni, le noble Albert l'estimerait. Et sa conscience lui répondait non avec énergie. Elle avait expié sa faute en s'imposant des pénitences. Elle jeûnait, elle se mortifiait en restant à genoux, les bras en croix, et disant des prières pendant quelques heures. Elle avait obligé Mariette à ses actes de repentir. L'ascétisme le plus vrai se mêlait à sa passion et la rendait d'autant plus dangereuse. « Lirai-je, ne lirai-je pas cette lettre ?» se disait-elle en écoutant les petites de Chavoncourt. L'une avait 16 ans et l'autre 17 ans et demi. Philomène regardait ses deux amies comme des petites filles, parce qu'elle n'aimait pas en secret. « Si je la lis, se disait-elle après avoir flotté pendant une heure entre non et oui, ce sera bien certainement la dernière. Oh, puisque j'ai tant fait que de savoir ce qu'il écrivait à son ami, pourquoi ne saurais-je pas ce qu'il lui dit à elle ? Si c'est un horrible crime, n'est-ce pas une preuve d'amour ? Oh, Albert, ne suis-je pas ta femme ? » Quand Philomène fut au lit, elle ouvrit cette lettre, datée de jour en jour, de manière à offrir à la duchesse une fidèle image de la vie et des sentiments d'Albert. « Ma chère âme, tout va bien. Aux conquêtes que j'ai faites, je viens d'en ajouter une précieuse. J'ai rendu service à l'un des personnages les plus influents aux élections. Comme les critiques qui font les réputations sans jamais pouvoir s'en faire une, il fait les députés sans pouvoir jamais le devenir. Le brave homme a voulu me témoigner sa reconnaissance à bon marché, presque sans bourse déliée, en me disant « Voulez-vous aller à la Chambre? J'ai pu vous faire nommer député. » Si je me résolvais à entrer dans la carrière politique, lui ai-je répondu très hypocritement, ce serait pour me vouer à la comté que j'aime et où je suis apprécié. Eh bien, nous vous déciderons si nous n'avons pas une influence à la Chambre, car vous y brillerez. Ainsi, mon ange aimé, quoi que tu dises, ma persistance aura sa couronne. Dans peu, je parlerai du haut de la tribune française à mon pays, à l'Europe. Mon nom te sera jeté par les 100 voix de la presse française. Oui, comme tu me le dis, je suis venu vieux à Besançon, et Besançon m'a vieilli encore, mais comme Sixte Quint, je serai jeune le lendemain de mon élection. J'entrerai dans ma vraie vie, dans ma sphère. Ne serons-nous pas alors sur la même ligne? Le comte Savaro de Savarus, ambassadeur je ne sais où, pourra certes épouser une princesse Sodellini, la veuve du duc d'Argaiolo. Le triomphe rajeunit les hommes, conservés par d'incessantes luttes. Ô oh, ma vie, avec quelle joie ai-je sauté de ma bibliothèque à mon cabinet devant ton cher portrait à qui j'ai dit ses progrès avant de t'écrire. Oui, mes voix à moi, celles du vicaire général, celles des gens que j'obligerai, celles de ce client, assurent déjà mon élection. Nous sommes entrés dans la 12e année depuis l'heureuse soirée où par un regard la belle duchesse a ratifié les promesses de la prescrite Francesca. « Ah, cher, tu as 32 ans et moi j'en ai 35. Le cher duc en a 77, c'est-à-dire à lui seul 10 ans de plus que nous deux, et il continue à se bien porter. Fais-lui mes compliments et dis-lui que je lui donne encore 3 ans. J'ai besoin de ce temps pour élever ma fortune à la hauteur de ton nom. Tu le vois, je suis gai, je ris aujourd'hui. Voilà l'effet d'une espérance. Tristesse ou gaieté, tout me vient de toi. L'espoir de parvenir me remet toujours au lendemain du jour où je t'ai vu pour la première fois, où ma vie s'est unie avec la tienne, comme la terre à la lumière. Qual pianto que ces 12 ans années, car nous voici au 26 décembre, anniversaire de mon arrivée dans ta villa du lac de Constance. Voici 11 ans que je te crie et que tu rayonnes. 27. Non, cher, ne va pas à Milan, reste à Belgirate. Milan m'épouvante. Je n'aime ni ces affreuses habitudes milanaises de causer tous les soirs à la Scala avec une douzaine de personnes, parmi lesquelles il est difficile qu'on ne te dise pas quelque douceur. Pour moi, la solitude est comme ce morceau d'ambre au sein duquel un insecte vit éternellement dans son immuable beauté. L'âme et le corps d'une femme restent ainsi purs et dans la forme de leur jeunesse. Est-ce ces Tedeschi que tu regrettes? 28. Ta statue ne se finira donc point? Oh, je voudrais t'avoir en marbre, en peinture, en miniature, de toutes les façons, pour tromper mon impatience. J'attends toujours la vue de Belgirate, et au midi, celle de la galerie, voilà les seuls qui me manquent. Oh, je suis tellement occupé que je ne puis aujourd'hui te rien dire, car rien, mais ce rien est tout. N'est-ce pas d'un rien que Dieu a fait le monde? Eh bien, ce rien, mais c'est un mot, le mot de Dieu. Je t'aime. 30. Ah, je reçois ton journal. Merci de ton exactitude. Tu as donc éprouvé bien du plaisir à voir les détails de notre première connaissance ainsi traduits. Hélas, tout en les voilant, j'avais grand-peur de t'offenser. Nous n'avions point de nouvelles, et une revue sans nouvelles, c'est une belle sans cheveux. Peu trouveur de ma nature et au désespoir, j'ai pris la seule poésie qui fut dans mon âme, la seule aventure qui fut dans mes souvenirs, je l'ai mise au ton où elle pouvait être dite, et je n'ai pas cessé de penser à toi, tout en écrivant un seul morceau littéraire qui sortira de mon cœur, je ne puis pas dire de ma plume. La transformation du farouche Sormano en Gina ne t'a-t-elle pas fait rire? Ah, tu me demandes comment va la santé? Oh, mais bien mieux qu'à Paris. Quoique je travaille énormément, la tranquillité des milieux a de l'influence sur l'âme. Ce qui fatigue et vieillit, cher ange, c'est ces angoisses de vanité trompée, ces irritations perpétuelles de la vie parisienne, ces luttes d'ambition rivale. Le calme est balsamique. Si tu savais quel plaisir me fait la lettre, cette bonne longue lettre où tu me dis si bien les moindres accidents de ta vie. Non, vous ne saurez jamais, vous autres femmes, à quel point un véritable amant est intéressé par ces riens. L'échantillon de ta nouvelle robe m'a fait un énorme plaisir à voir. Est-ce donc une chose indifférente que de savoir ta mise? Et si ton front sublime se raye, si nos auteurs te distraient, si les chants de Victor Hugo t'exaltent, je lis les livres que tu lis. Il n'y a pas jusqu'à ta promenade sur le lac qui ne m'ait attendri. Ta lettre est belle, suave comme ton âme. Ô fleur céleste et constamment adorée, aurais-je pu vivre dans ces chères lettres qui depuis 11 ans m'ont soutenu dans ma voie difficile? Comme une clarté, comme un parfum, comme un chant régulier, comme une nourriture divine, comme tout ce qui console et charme la vie. Ne manque pas. Si tu savais quelle est mon angoisse, la veille du jour où je les reçois, et ce qu'un retard d'un jour me cause de douleur. Est-elle malade? Est-ce lui? Oh, je suis entre l'enfer et le paradis, je deviens fou. Cara diva, cultive toujours la musique, exerce ta voix, étudie. Je suis ravi de cette conformité de travaux et d'heures qui fait que, séparés par les Alpes, nous vivons exactement de la même manière. Cette pensée me charme et me donne bien du courage. Quand j'ai plaidé pour la première fois, je ne t'ai pas encore dit cela, je me suis figuré que tu m'écoutais, et j'ai senti tout à coup en moi ce mouvement d'inspiration qui met le poète au-dessus de l'humanité. Si je vais à la chambre, Tu viendras à Paris pour assister à mon début. Tant au soir. Mon Dieu, combien je t'aime. Hélas, j'ai mis trop de choses dans mon amour et dans mes espérances. Un hasard qui ferait chavirer cette barque trop chargée emporterait ma vie. Voici 3 ans que je ne t'ai vu, et à l'idée d'aller à Belgirate, et mon cœur bat si fort que je suis obligé de m'arrêter. Te voir, entendre cette voix enfantine et caressante, embrasser par les yeux ce teint d'ivoire si éclatant aux lumières et sous lequel on devine ta noble pensée. Admirer tes doigts jouant avec les touches, recevoir toute ton âme dans un regard et ton cœur dans l'accent d'un Oime ou d'un Alberto, nous promener devant les orangers en fleurs, vivre quelques mois au sein de ce sublime paysage. Voilà la vie. Oh, quelle niaiserie que de courir après le pouvoir, un nom, la fortune. Mais tout est à Belgirate. Là est la poésie, là est la gloire. J'aurais dû me faire ton intendant, ou, comme ce cher tyran que nous ne pouvons haïr me le proposait, y vivre en cavalier servant, ce que notre ardente passion ne nous a pas permis d'accepter. Est-ce un Italien que le duc? Mais t'as vu que c'est le Père éternel. Adieu, mon ange. Tu me pardonneras mes prochaines tristesses en faveur de cette gaieté tombée comme un rayon du flambeau de l'espérance qui jusqu'alors me paraissait un feu follet. Comme il aime! S'écria Philomène en laissant tomber cette lettre qui lui sembla lourde à tenir. Après 11 ans, écrire ainsi! Mariette, dit Philomène à sa femme de chambre le lendemain matin, allez jeter cette lettre à la poste. Dites à Jérôme que j'ai tout ce que je voulais savoir et qu'il serve fidèlement M. Albert. Nous nous confessons de ses péchés sans dire à qui les lettres appartenaient ni où elles allaient. J'ai eu tort, c'est moi qui suis la seule coupable. Mademoiselle a pleuré, dit Mariette. Oui, je ne voudrais pas que ma mère s'en aperçût. Donnez-moi de l'eau bien froide. Philomène, au milieu des orages de sa passion, écoutait souvent la voix de sa conscience. Touchée par cette admirable fidélité de deux cœurs, elle venait de faire ses prières et s'était dit qu'elle n'avait plus qu'à se résigner à respecter le bonheur de deux êtres dignes l'un de l'autre, soumis à leur sort, attendant tout de Dieu, sans se permettre d'action ni de souhaits criminels. Elle se sentit meilleure et elle éprouva quelque satisfaction intérieure après avoir pris cette résolution inspirée par la droiture naturelle au jeune âge. Elle y fut encouragée par une réflexion de jeune fille. Elle s'immolait pour lui. Elle ne s'est pas aimée, pensait-elle, ah, si c'était moi, mais je sacrifierais tout à un homme qui m'aimerait ainsi. Être aimée, quand et par qui le serais-je, moi? Ce petit monsieur de Soula n'aime que ma fortune. Si j'étais pauvre, il ne ferait seulement pas attention à moi. Philomène, ma petite, à quoi penses-tu donc? Tu vas au-delà de l'arrêt, dit la baronne à sa fille, qui faisait des pantoufles en tapisserie pour le baron. Philomène passa tout l'hiver de 1834 à 1835 en mouvements secrets tumultueux. Mais au printemps, au mois d'avril, époque à laquelle elle atteignit à ses 18 ans, elle se disait parfois qu'il serait bien de l'emporter sur une duchesse d'Argaiolo. Dans le silence et la solitude, la perspective de cette lutte avait rallumé sa passion et ses mauvaises pensées. Elle développait par avance sa témérité romanesque en faisant plan sur plan. Quoique de tels caractères soient exceptionnels, il existe malheureusement beaucoup trop de Philomènes, et cette histoire contient une leçon qui doit leur servir d'exemple. Pendant cet hiver, Albert de Savarus avait sourdement fait un progrès immense dans Besançon. Sûr de son succès, il attendait avec impatience la dissolution de la Chambre. Il avait conquis parmi les hommes du juste milieu l'un des faiseurs de Besançon, un riche entrepreneur qui disposait d'une grande influence. Les Romains se sont partout donné des peines énormes, ils ont dépensé des sommes immenses pour avoir d'excellentes eaux à discrétion dans toutes les villes de leur empire. À Besançon, ils buvaient les eaux d'Ascier, montagne située à une assez grande distance de Besançon. Besançon est une ville assise dans l'intérieur d'un fer à cheval, décrit par le Doupe. Ainsi, rétablir l'aqueduc des Romains pour boire l'eau que buvaient les Romains dans une ville arrosée par le Doubs est une de ces niaiseries qui ne prennent que dans une province où règne la gravité la plus exemplaire. Mais si cette fantaisie se logeait au cœur des Byzantins, elle devait obliger à faire de grandes dépenses, et ces dépenses allaient profiter à l'homme influent. Albert Savaron de Savarus décida que le Doubs était bon qu'à couler sous des ponts suspendus et qu'il n'y avait de potable que l'eau d'Arcier. Des articles parurent dans la Revue de l'Est qui ne furent que l'expression des idées du commerce byzantin. Les nobles comme les bourgeois, le juste milieu comme les légitimistes, le gouvernement comme l'opposition, enfin tout le monde, se trouva d'accord pour pouvoir boire l'eau des Romains et jouir d'un pont suspendu. La question des eaux d'Arcier fut à l'ordre du jour dans Besançon. À Besançon, comme pour les deux chemins de fer de Versailles, comme pour des abus subsistants, il y eut des intérêts cachés qui donnèrent une vitalité puissante à cette idée. Les gens raisonnables, en petit nombre d'ailleurs, qui s'opposaient à ce projet, furent traités de ganaches. On ne s'occupait que des deux plans de l'avocat Savaron. Après 18 mois de travaux souterrains, cet ambitieux était donc arrivé, et dans la ville la plus immobile de France et la plus réfractaire à l'étranger, à la remuer profondément, à y faire, selon une expression vulgaire, la pluie et le beau temps, à y exercer une influence positive sans être sorti de chez lui. Il avait résolu le singulier problème d'être puissant quelque part sans popularité. Pendant cet hiver, il gagna 7 procès pour des ecclésiastiques de Besançon. Aussi, par moments, respirait-il par avance l'air de la chambre. Son cœur se gonflait à la pensée de son futur triomphe. Cet immense désir qui lui faisait mettre en scène tant d'intérêts, inventer tant de ressorts, absorbait les dernières forces de son âme démesurément tendue. On vantait son désintéressement. Il acceptait sans observation les honoraires de ses clients. Mais ce désintéressement était de l'usure morale. Il attendait un prix pour lui plus considérable que tout l'or du monde. Il avait acheté, soi-disant pour rendre service à un négociant embarrassé dans ses affaires au mois d'octobre 1834 et avec les fonds de Léopold Hannequin, une maison qui lui donnait le sens d'éligibilité. Ce placement avantageux n'eut pas l'air d'avoir été cherché ni désiré. « Vous êtes un homme bien réellement remarquable, » dit à Savarus l'abbé de Granzay, qui naturellement observait et devinait l'avocat. Le vicaire général était venu lui présenter un chanoine qui réclamait les conseils de l'avocat. « Vous êtes, dit-il, un prêtre qui n'est pas dans son chemin. » Un mot qui frappa Savarus. De son côté, Philomène avait décidé dans sa forte tête de frêle jeune fille d'amener M. de Savarus dans le salon et de l'introduire dans la société de l'hôtel de Rupt. Elle bornait encore ses désirs à voir Albert et à l'entendre. Elle avait transigé, pour ainsi dire, et les transactions ne sont souvent que des trêves. Les Rouxey, terres patrimoniales des Vanneville, valaient 10 000 francs de rente nette, mais en d'autres mains, elles lui rapportaient bien davantage. L'insouciance du baron, dont la femme devait avoir eu 40 000 francs de revenus, laissait les Rouxey sous le gouvernement d'une espèce de maître Jacques, un vieux domestique de la maison Vanneville appelé Modinier. Néanmoins, quand le baron et la baronne éprouvaient le désir d'aller à la campagne, ils allaient au Rouxey, dont la situation est très pittoresque. Le château, le parc, tout a d'ailleurs été créé par le fameux Vatteville, dont la vieillesse active se passionna pour ce lieu magnifique. Entre deux petites alpes, deux pitons dont le sommet est nu et qui s'appellent le Grand et le Petit Rouxey, au milieu d'une gorge par où les eaux de ces montagnes, terminées par la dent de Villars, tombent et vont se joindre aux délicieuses sources du Doubs, Vatteville imagina de construire un barrage énorme en y laissant deux déversoirs pour le trop-plein des eaux. En amont de son barrage, il obtint un charmant lac et en aval deux cascades, deux ravissantes rivières avec lesquelles il arrosa la sèche et inculte vallée que dévastait jadis le torrent des Rouxey. Ce lac, cette vallée, ces deux montagnes, il les enferma par une enceinte et se bâtit une chartreuse sur le barrage auquel il donna trois arpents de largeur, en y faisant apporter toutes les terres qu'il fallut enlever pour creuser le double lit de ces rivières factices et les canaux d'irrigation. Quand le baron de Vatteville se procura le lac au-dessus de son barrage, il était propriétaire des deux Rouxey, mais non de la vallée supérieure qu'il inondait ainsi, par laquelle on passait en tout temps, et qui se termine en fer à cheval au pied de la dent de Villars. Mais ce sauvage vieillard imprimait une si grande terreur que pendant toute sa vie, il n'y eut d'aucune réclamation de la part des habitants des Rissets, petit village situé le revers de la dent de Villars. Quand le baron mourut, il avait réuni les pentes des deux Rouxey au pied de la dent de Villars par une forte muraille, afin de ne pas inonder les deux vallées qui débouchaient dans la gorge des Rouxey, à droite et à gauche du pic de Villars. Il mourut ayant conquis ainsi la dent de Villars. Ses héritiers se firent les protecteurs du village des Rissets et maintinrent ainsi l'usurpation. Le vieux meurtrier, le vieux renégat, le vieil abbé Vatteville avait fini sa carrière en plantant des arbres, en construisant une superbe route prise sur le flanc d'un des deux Rouxey et qui rejoignait le grand chemin. De ce parc, de cette habitation, dépendaient des domaines fort mal cultivés, des chalets dans les deux montagnes et des bois inexploités. C'était sauvage et solitaire, sous la garde de la nature, abandonné au hasard de la végétation, mais plein d'accidents sublimes. Vous pouvez vous figurer maintenant les Rouxey. Il est fort inutile d'embarrasser cette histoire en racontant les prodigieux efforts et les ruses empreintes de génie par lesquelles Philomène arriva, sans le laisser soupçonner, à son but. Qu'il suffise de dire qu'elle obéissait à sa mère en quittant Besançon au mois de mai 1835, dans une vieille berline attelée de deux bons gros chevaux loués et allant avec son père au Rouxey.